Bonjour tout le monde, je me prépare. Pendant ce temps, vous pouvez vous préparer aussi. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez déjà l'ouvrir à l'évangile de Matthieu. J'aime bien quand le Seigneur parle. J'aime bien quand il nous fait des clins d'œil. Quand il confirme des choses qu'on porte sur notre cœur. Et parfois, on peut avoir des doutes, mais c'est moi ou c'est le Seigneur? Et tout à coup, il le confirme. Et ça m'est arrivé dimanche passé, où il a confirmé. La veille du culte de dimanche passé, je venais de terminer le gros œuvre de la prédication de ce matin. Et à un moment donné, pendant le culte, David Tripet a eu une parole pour l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était un peu ça, mais en fait, c'était une parole qui concernait un trésor que notre Église a reçu. Et pour ce trésor, en fait, il fallait creuser, d'où le roc que dit Marie-Jo. Et il parlait aussi qu'il fallait avoir des pioches pour pouvoir creuser et creuser ce roc pour atteindre ce trésor. Et moi, ça m'a vraiment encouragée parce que le thème de ma prédication parle d'un trésor. Donc, j'ai intitulé cette prédication Le royaume de Dieu, deux points. Tirer de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Alors, lors de ma dernière prédication, c'était, je ne sais plus, soit en fin d'année, soit en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait survolé le sermon sur la montagne. Et ça se situe dans l'évangile de Matthieu. C'est trois chapitres qui nous parlent du sermon sur la montagne, donc les chapitres 5 à 7. Où Jésus nous donne beaucoup de prescriptions qui parlent de la mentalité du royaume. C'est là qu'il y a la prière du Notre Père, c'est là qu'il y a marqué qu'il faut faire confiance au Seigneur, qu'il ne faut pas craindre pour notre propre vie, c'est là qu'il y a marqué qu'il faut tendre l'autre joue quand on reçoit un coup, qu'il faut aimer ses ennemis, qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur. C'est là qu'il est question aussi de la prière dans le lieu secret, du jeûne. Dans le lieu secret aussi, enfin, il y a plein, plein de prescriptions. Et le sermon sur la montagne, il se clôture par la parabole des deux maisons, celle qui est fondée sur le roc et celle qui est posée sur le sable. Et en fait, il explique, Jésus expliquait les conséquences de si on applique ou pas les principes de Dieu, les principes du royaume. Et dans le même ordre d'idées, ce matin, je vais vous parler aussi d'une parabole qui clôture toute une série d'enseignements sur le royaume des cieux, toujours dans Matthieu, et c'est dans le chapitre 13. Là encore, c'est toujours plus facile dans une Bible en papier, pour ceux qui l'ont avec eux. Mais je pense que le téléphone va aussi. Si vous regardez le début de ces prédications de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, on voit que ça commence par la parabole du semeur. C'est la parabole du semeur et des terrains. Alors, je ne vais pas vous la lire maintenant parce que ce n'est pas cette parabole-là que je vais commenter, mais c'est l'histoire du semeur qui sème un peu partout et il y a de la semence qui tombe dans du mauvais terrain, donc du terrain rocailleux ou bien là où il y a des ronces ou bien au bord du chemin et une partie de la semence tombe dans la bonne terre. Et c'est quand la semence tombe dans la bonne terre, évidemment, qu'elle peut croître, qu'elle peut multiplier. Ensuite, il explique cette parabole et puis il en donne une autre. C'est la parabole de la mauvaise herbe ou de l'ivraie, selon les versions qu'on a. Ou c'est de nouveau l'histoire d'un semeur qui sème et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient semer une mauvaise graine. Il y a la parabole de la graine de moutarde, qui parle de croissance, il y a la parabole du levain qui fait lever toute la pâte. Et ensuite, Jésus réexplique des choses sur ces paraboles qu'il a données. Et je vous propose de lire, pour bien nous mettre dans cette atmosphère des enseignements de Jésus, à partir du verset 44 jusqu'à 52. Donc Matthieu 13, à partir du verset 44. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes et ils jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils. Il leur dit : C'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors je vais vous parler de ce dernier verset, de ce scribe qui, pareil à un maître de maison, tire des choses anciennes, des choses nouvelles de son trésor. Je me suis dit au début, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Ça faisait longtemps que je sentais que je devais prêcher sur ce verset. Je me suis dit, mais c'est un verset, Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire ? Et là, je suis arrivée à me dire, mais il faut te canaliser parce que sinon ça ne va pas aller. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, accrochez-vous. Faites-moi signe si vous vous endormez et puis je passe plus loin. Ce qu'on peut déjà remarquer dans ce verset, si vous le lisez attentivement, vous vous rendez compte que ce scribe, il tire des choses de son trésor. Ça veut dire que son trésor, il l'a. Il le possède. C'est le sien. Donc ici, il n'est pas question de trouver ou de chercher un trésor. Il est question de tirer quelque chose de son trésor. Et dans la parole qu'on a reçue dimanche, le Seigneur nous disait « Je vous ai donné un trésor ». On le possède, ce trésor. Par contre, il y a quelque chose de vraiment étrange. C'est que Jésus prend un scribe comme exemple, un homme religieux. En effet, les scribes, ils appartenaient aux pharisiens, donc les gens vraiment étroits d'idées. Et en fait, on sait que c'est ces religieux-là, qui se sont opposés à Jésus. Et c'est même eux qui l'ont conduit jusqu'à la croix. Et Jésus, il nous exhorte en prenant cet exemple-là. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un scribe ? Un scribe avait trois fonctions. Et la première fonction, c'était l'étude. En fait, le scribe, il étudiait la parole. Donc, il étudiait l'Ancien Testament, puisque le Nouveau, à l'époque, n'existait pas. Et en fait, il interprétait tout ça et il devait aussi conserver la loi. Parce que l'Ancien Testament, il y a toute la loi de Moïse et il devait conserver cette loi, c'est-à-dire la transmettre pour que le peuple ne l'oublie pas. Donc en fait, c'est ce qui a donné la loi orale, la tradition. Et la loi orale, elle a commencé à prendre plus de poids que la loi écrite. Et ça a été assez terrible parce que les enseignements des scribes qui étaient très influents dans la société, ils étaient tellement psychorigides que ça a fait des dégâts que l'on peut encore constater jusqu'à maintenant dans le peuple juif. Une deuxième chose dont ils étaient responsables, c'était l'enseignement. Les scribes enseignaient, ils avaient des étudiants, des élèves, des disciples. Et la troisième chose, ils étaient légistes, c'est-à-dire que c'est eux qui fonctionnaient comme juges au sein du Sanhédrin. Donc c'est eux qui devaient administrer la loi, légiférer. Et voilà que Jésus prend un scribe pour exemple en nous disant à quoi ressemble un scribe qui tire des tellement bonnes choses de son trésor. Mais on peut regarder comment commence ce verset. Si on prend déjà depuis le verset juste avant, depuis le verset 51, voilà, Jésus leur demande à ses disciples à qui il est en train d'enseigner, il leur demande « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Et ensuite il dit « C'est pourquoi ?» Donc, avez-vous compris toutes ces paraboles que je viens de vous donner qui concernent le royaume des cieux ? Oui, vous avez compris. Alors, c'est pourquoi. À cause de toute la puissance qu'il y a dans la compréhension à saisir, à cause de la puissance qu'il y a dans ses enseignements, à cause de la réalité du royaume de Dieu, ce scribe y ressemble à un maître de maison qui puise des trésors. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'ils étaient très peu nombreux, il y a certains scribes qui ont reçu le Seigneur. On a au moins un exemple. Dans Matthieu 8, 19, par exemple, un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Donc, il y a quelques scribes qui ont leur cœur qui a été touché et qui ont reçu le Seigneur. Et ils ont pu aller plus loin que le raisonnement au niveau, vraiment au niveau cérébral. Et d'ailleurs, le texte nous explique ça un petit peu plus de façon poussée. Tu peux mettre le suivant volontiers, Jérôme. Il y a marqué, c'est pourquoi tout scribe instruit du royaume, de ce qui regarde le royaume des cieux. Ce n'est pas juste tout scribe, mais c'est celui qui est instruit dans la parole qui concerne le royaume des cieux. Et ce mot, instruit, en grec, c'est mathetetes, qui veut dire en fait disciple, ou même apprenti. Donc en fait, ça veut dire, c'est pourquoi tout scribe devenu apprenti de ce qui regarde du royaume des cieux est semblable à un maître de maison. En fait, Jésus est en train de parler d'une attitude de cœur. Les religieux, eux, ils connaissent la parole, mais de manière cérébrale. Ils sont orgueilleux et ils sont jaloux. Et c'est ce qui les empêche de recevoir les choses, les trésors de Dieu. L'attitude du cœur de ce scribe, en fait, c'est celle de quelqu'un qui était religieuse. C'est une personne qui était religieuse. C'est une personne qui était légaliste. Elle était sûrement elle-même jalouse. Elle était sûrement elle-même figée sur ses positions. Mais à un moment donné, elle a eu l'humilité de se laisser toucher, de se laisser transformer, de se laisser instruire, de se laisser visiter par le Seigneur. Et elle n'a plus réfléchi cérébralement, mais spirituellement. Il y a la pièce de 4 sous qui est tombée. Donc ce que Jésus veut nous dire avec ça, c'est que si on a cette attitude-là de cœur, si on se laisse toucher par les enseignements qu'il nous donne, par la puissance, la réalité, la vérité de sa parole, on va être comme un maître de maison. Qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, un maître de maison? Un maître de maison, c'est quelqu'un qui a une autorité légale, légitime. C'est quelqu'un qui s'occupe des personnes qui lui sont confiées. C'est quelqu'un qui pourvoit aux besoins de sa maisonnée. C'est quelqu'un qui est influent dans la société. C'est quelqu'un qui a de l'assurance et qui prend ses responsabilités. Donc, si on a cette attitude de cœur, on devient comme un maître de maison. On reçoit cette autorité légitime. On reçoit cette capacité d'être influent positivement. Mais voilà, pour ressembler à ce scribe, comme Jésus l'explique, il faut faire partie de la bonne terre. Il faut recevoir les graines du Seigneur dans de la bonne terre. Mais il faut aussi être de la bonne semence. Il ne faut pas être de l'ivraie, il ne faut pas être de la mauvaise herbe. Il faut être cette bonne semence qui va croître, qui va multiplier. Et en fait, en clair, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans un monde qui est non seulement physique, mais qui est spirituel. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non, qu'on le comprenne ou non, ça ne change rien. On évolue dans des lieux autant physique que spirituel, je dirais même plus spirituel. Et il faut qu'on fasse avec. Il faut qu'on connaisse le milieu dans lequel on évolue pour pouvoir nous positionner, pour pouvoir y agir. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses nouvelles et ces choses anciennes ? C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. En grec, quand on veut mettre l'emphase sur quelque chose, donc quand on veut mettre l'importance sur un élément, on le place en premier dans le texte. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce qui est prioritaire, c'est ce qui est nouveau. Ce n'est pas ce qui est ancien. Il y a certainement une raison. Mais en même temps, il n'y a pas marqué que le scribe, il puise que des choses nouvelles. Il puise les deux, mais avec une certaine priorité. Et en fait, les choses anciennes, ça peut s'apparenter à tout ce qui concerne l'Ancien Testament. Donc ce scribe, qui est un érudit, il puise les bonnes choses qu'il a de ses connaissances de la loi de Moïse, les 10 commandements par exemple, de toutes les prescriptions qu'il y a dans la parole, de toutes ses connaissances, de tout ce qu'enseigne l'Ancien Testament. C'est des fondements solides. C'est aussi des expériences. C'est des acquis. C'est comme un point d'ancrage. Ça nous donne de la stabilité. Ces choses-là, elles sont bonnes et elles sont nécessaires autant pour le scribe que pour nous. On ne peut pas se passer de tout ce qui est dans l'Ancien Testament, on en a besoin. C'est des fondements pour notre vie. C'est des fondements sur lesquels on doit s'appuyer. Et les trésors qu'on trouve, entre autres, dans l'Ancien Testament, il y en a dans tout l'Ancien Testament, mais lisez, relisez, relisez Genèse 1 et Genèse 2. C'est tout le récit de la création et c'est le récit de la création de l'être humain. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit tout le soin paternel que le Père a mis dans tout ce qu'il a fait. Son soin paternel, on le trouve dans la création, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, l'univers, les étoiles, les constellations, le système solaire, dans quel sens tournent les choses, ou pas, ou comment, les saisons, et ensuite toute la nature qui se déploie sous nos yeux, tout ce qui vit, tout le temps, la météo, tout ce que le Seigneur a fait, c'est pour nous. C'est un soin paternel que Dieu a mis pour que l'être humain soit dans un environnement qui soit idéal. Et quand on lit les choses qui concernent le jardin d'Éden, mais ça devait être tellement magnifique. Déjà, Adam et Ève étaient nus, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de chaussures et ils n'avaient pas peur de se faire mal aux pieds. C'est peut-être un détail, mais tout était tellement merveilleux. Tout était fait pour que l'être humain puisse s'épanouir. Ça, c'est le soin paternel. Ça fait partie des choses anciennes qui sont bonnes, sur lesquelles on doit se fonder. On doit comprendre qu'on a un Père qui nous aime d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Tout ce qu'il a créé, c'est pour nous. Et son soin paternel, on le voit aussi dans la création de l'être humain. C'est lui qui nous a donné le mouvement, le souffle, l'être, la vie. Chaque matin, quand on se réveille et qu'on respire, c'est parce qu'on a toujours le souffle de Dieu en nous. Il suffit qu'il nous l'enlève et on ne respire plus. Et Dieu a mis en nous sa grâce. Il a mis ses bénédictions. Et ça, c'est une chose ancienne qui est un trésor. C'est des choses qu'on sait avec notre tête, mais quand on commence à les comprendre avec le cœur, que de toute éternité, Dieu nous a conçus dans son cœur pour nous aimer et qu'il a tout favorisé pour nous, tout disposé pour nous, ça, c'est un trésor qui fait partie des choses anciennes. Et c'est important d'aller puiser dedans, de se rappeler qui on est, de se rappeler qui est notre Père. Ça nous donne de l'assurance. Et ça nous permet aussi ensuite d'avoir un dialogue avec lui, de vivre des choses avec lui, de comprendre qu'on est des enfants aimés, des enfants chéris, des enfants protégés. Pour nous aider aussi à comprendre ces choses-là, on peut lire les psaumes. Il y a beaucoup de psaumes qui parlent de la création. Mais ça parle déjà de la majesté de Dieu, de la grandeur, de l'intelligence infinie de Dieu, l'intelligence qu'il a dû avoir pour créer toute chose. Et en même temps, ce Dieu tellement grand, tellement énorme qui nous dépasse, c'est comme s'il s'était fait tout petit pour pouvoir venir nous rencontrer sans nous terrasser. Et ce qu'on peut voir dans les psaumes, il y a autant la majesté de Dieu qui est mise en avant, autant le soin qu'il donne à l'être humain. Il vient toujours pour nous protéger, il vient toujours pour nous secourir. On peut étaler notre cœur devant lui et il vient à notre secours. Ça fait partie des choses anciennes. Mais c'est tellement important. Seulement, il ne faut pas juste se reposer sur nos acquis. Toutes ces connaissances-là qu'on a, ce sont nos acquis, ce sont nos fondements. Mon salut, c'est mon acquis. C'est une chose ancienne. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis sauvée. Me concernant, ça fait plusieurs années. Je ne sais même plus quand c'était. Parce que ma vie n'a été que confirmation de mon salut. Je ne peux pas dire, voilà, c'est peut-être une grâce qui m'a été faite. Mais j'ai toujours connu le Seigneur, je l'ai toujours accepté. Ça, c'est un acquis pour moi. C'est mon fondement, c'est mes choses anciennes. Mais Jésus me dit, il y a des choses nouvelles. Il faut les saisir, il faut les tirer de ton trésor. Alors, si on regarde dans les paragraphes qui précèdent ce verset, on a commencé la lecture à partir du verset 44. Si on regarde le début du verset 44, 45, 47... Voilà ce que Jésus dit. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer. Selon les traductions, vous ne verrez peut-être pas toujours ce mot encore, mais dans le texte originel, il y est à chaque fois. Donc c'est comme si Jésus est en train de dire, il sait bien que c'est nouveau. Et il est en train de nous dire, mais en fait, le royaume des cieux, c'est un peu comme ça, mais c'est aussi comme ça. Puis en fait, ça ressemble à ça, mais c'est aussi ça. Donc en fait, il est en train de nous dire, mais c'est tellement énorme, c'est tellement grand, c'est tellement riche. Vous ne pouvez pas juste vous dire, je connais ça, je connais tout. On ne peut pas expliquer, humainement parlant, on ne peut pas comprendre. On peut comprendre déjà des bouts. Et ces bouts-là, il faut les saisir. Et la compréhension, elle va augmenter. Et on sera en plein dans les principes du royaume de Dieu, de la multiplication. Alors, il essaye de dire, mais comprenez. Il essaye de donner des images pour qu'on puisse les saisir. Et il est en train d'expliquer, le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique, aussi un peu, puisque Jésus est en train d'établir son règne sur la terre, mais c'est surtout un lieu spirituel. Alors qu'est-ce que c'est que ces choses nouvelles? Eh bien, il y a plusieurs exemples. Par exemple, dans Luc 10, les versets 1 à 12, c'est quand Jésus envoie les 70 disciples prêcher et guérir les malades. Jésus n'a encore pas passé par la croix, mais il est déjà complètement rempli du Saint-Esprit. Et il envoie ses disciples. Il les qualifie pour un mandat. Et il leur donne une formule à donner aux gens qui vont aller rencontrer. Il leur dit, vous leur direz, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc ce mandat est étroitement lié à la réalité du royaume de Dieu. Et lorsqu'ils sont revenus, ces 70 disciples, lorsqu'ils sont revenus de leur mission, ils n'en pouvaient plus. Ils racontaient à Jésus les guérisons qu'ils avaient accomplies, puis ils ajoutaient, et même les démons nous étaient soumis. Et Jésus, lui, il réagit à tout ça, ça vibre en lui. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une chose nouvelle. Mais comment est-ce possible? C'est possible avec l'action du Saint-Esprit. Et à l'époque, les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existe de toute éternité parce qu'il est Dieu. Depuis le début de la Genèse, il se mouvait au-dessus des eaux. On sait que le Saint-Esprit était déjà là. Quand un prophète prophétisait, il était sous l'onction du Saint-Esprit, mais c'était sporadique. À un moment donné, sur une personne donnée, le Saint-Esprit agissait. Mais il n'était pas connu comme tel. Mais là, quand les démons sont chassés, quand les maladies sont chassées, quand les gens sont guéris, quand ils sont libérés, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste, et ça, c'est une chose nouvelle. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est accessible à chacun d'entre nous. C'est qu'on n'a plus besoin d'aller offrir un sacrifice. On n'a plus besoin d'aller voir un prophète pour lui demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ?» C'est chacun d'entre nous, c'est accessible pour chacun d'entre nous. Ces choses nouvelles, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné pour changer l'atmosphère autour de nous. Quand on commence à saisir ces choses-là, quand on les tire de notre trésor, on comprend des choses spirituelles qui nous aident à prier et ça commence à changer notre environnement. Essayez une fois. Parfois, il faut prier avec des mots dans notre propre langue. Parfois, c'est dans la langue du ciel. Parfois, selon à voix basse, on peut commencer à prier en langue juste pour assainir l'atmosphère. Et regardez, ça marche. Dans votre travail, par exemple, vous pouvez faire ces choses-là. Parfois, c'est dans sa propre famille qu'il faut le faire. Parfois, c'est pour sa propre vie. Ces choses nouvelles, c'est que c'est quand on peut prier les uns pour les autres. C'est quand on peut se délivrer parmi, si je peux dire ça comme ça. Quand on prie les uns pour les autres, écoute, j'ai un problème, je n'arrive pas à m'en sortir avec cette addiction ou je ne sais quoi, et qu'on se met à deux ou trois et on commence à intercéder ensemble jusqu'à ce que la personne soit libérée, ça fait partie des choses nouvelles. On est influent pour notre entourage, pour l'extérieur. Mais les choses nouvelles, c'est aussi à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important de le saisir. Les choses nouvelles, c'est notre capacité de recevoir des paroles du Seigneur, des compréhensions, des révélations qui font que le Seigneur commence à nous rejoindre de plus en plus profond dans notre être pour nous transformer, pour nous guérir, pas forcément physiquement, mais émotionnellement, ou par rapport à notre passé, ou par rapport à un péché dont on n'arrive pas à se débarrasser, ou par rapport à des choses qu'on n'arrive pas à voir nous-mêmes et que tout à coup le Saint-Esprit nous dit « Mais ton problème, c'est ça. » Parfois, on a un non-pardon. On n'a jamais pu pardonner à quelqu'un et c'est tellement vieux cette histoire qu'on a même oublié. Et tout à coup, le Saint-Esprit dit « Tu sais, quand il s'est passé ça, t'as gardé une telle amertume. Mais en fait, ça te lie, ça t'empêche d'avancer. Si tu pardonnes, ça ne veut pas dire que la personne est innocente. Ça veut juste dire que tu te dégages de son emprise. Que tu te dégages du péché qui t'a affecté. Et moi, je m'occupe d'elle. Mais toi, tu sanctifies ta vie et je m'occupe de toi. » Ça fait partie des choses nouvelles. Les choses nouvelles, c'est notre identité retrouvée en Jésus. Si on lit la Genèse, on voit comme le Père a tellement bien tout favorisé pour nous, notre environnement était merveilleux. Mais il y a eu une telle cassure. Il y a eu une cassure tellement indescriptible que pour se reconstruire, ça prend du temps. Et la conversion n'y suffit pas. C'est un travail de tous les jours. Depuis le jour où on accepte Jésus, où on comprend qu'on a besoin de lui, c'est un travail de tous les jours de restauration où le Seigneur vient nous rencontrer. Il n'y en a pas un dans cette salle, il n'y en a pas un qui est au bout du processus. On est tous en chemin, tous. Et tous, à un moment donné, ça va bien, on est content des progrès qu'on a fait, puis tout à coup, paf, il se repasse un truc ou un travers ou je ne sais quoi, et puis, ok Seigneur, je recommence, je me relève, mais surtout, aide-moi à me relever. Et c'est une marche, et on est tous à la même, tous. Il y en a qui sont au début du chemin, il y en a qui sont au milieu, mais on est en chemin. On court pour remporter le prix, mais le prix c'est au ciel. Et c'est pour ça qu'il faut être persévérant, c'est jusqu'au bout. Mais Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle qu'il attend juste à ce qu'on ouvre nos oreilles pour l'entendre, pour recevoir ces choses de lui. C'est pourquoi tout scribe apprenti de Jésus-Christ, du royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ce terme « tirer de son trésor », en grec, on appelle ça « ekbalo », ça veut dire, oui, extraire, ça veut dire tirer, mais c'est extrêmement puissant. Parce que si vous regardez le terme qui est utilisé chaque fois que quelqu'un dans la Bible, dans le Nouveau Testament, chaque fois que quelqu'un chasse un démon, c'est « ekbalo ». C'est ce mot-là qui est utilisé. Chaque fois que Jésus chasse des démons, chaque fois que les disciples chassent des démons, c'est « ekbalo ». Il les tire de la vie de la personne et il les jette. Donc ce mot, c'est « jeter dehors », « chasser », »,« faire sortir », »,« envoyer », »,« éloigner », »,« puiser dans », »,« laisser de côté ». Ça demande de l'énergie. C'est tout le contraire de la passivité et de l'apathie. Être dans le sens d'exister, c'est essentiel. Mais être actif, c'est indispensable pour vivre la réalité du royaume de Dieu. Je recommence. Être dans le sens d'exister, c'est essentiel. Je suis. Mais être actif pour vivre les réalités du royaume de Dieu, c'est essentiel. Et n'oubliez pas, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il faut se faire violence à soi-même. Parfois, juste pour aller dans le lieu secret, juste pour prier, il faut se faire violence à soi-même. Parfois, il faut se faire violence à soi-même pour être d'accord d'être pris, pour être d'accord d'être brisé, pour être d'accord d'entendre quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, pour être d'accord d'aller voir son conjoint et de lui dire « j'ai pas fait fort, là je te demande pardon ». Ça paraît facile comme ça. Souvent on dit « je m'en excuse ». Je ne sais pas si on peut s'excuser soi-même, j'ai un doute. Mais quand on va vers quelqu'un et qu'on dit « je te demande pardon », des fois c'est difficile d'arriver au bout de la phrase. Ça, c'est tirer les choses nouvelles de son trésor. Il faut se faire violence à soi-même. Parfois, il faut être d'accord de perdre son amour-propre. Et parfois, il faut accepter de perdre la face. Mais moi, je peux vous dire que devant Dieu, on ne perd jamais la face. Chaque fois qu'on s'humilie devant Dieu, on ne perd pas la face, mais au contraire, il nous relève. Au contraire, il nous libère de ce qui nous tenait captifs. Et il nous transforme. On est tous en apprentissage pour ces choses-là. En tout cas, moi, je suis en apprentissage. Moi, je suis une apprentie. Je ne suis pas une professionnelle, là. Je suis une apprentie. Ce qui m'a frappé dans la fin de ce chapitre 13, ça m'a fait mal au cœur. Je vous le lis, parce que je pense que c'est important qu'on le sache. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il vint dans son pays et se mit à enseigner dans leur synagogue. Ébahis, les gens se demandaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas, ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Il était pour eux une cause de chute. Jésus vient de donner des enseignements hyper puissants. Il a chassé des démons, il a fait des miracles, des prodiges, il a guéri les gens. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais les gens de sa patrie, ses proches, ceux qui le connaissent, ils n'ont pas voulu se laisser toucher comme le scribe. On ne veut pas recevoir le message. Ça bouscule, alors on rejette. Et bien qu'ils aient vu tous les miracles devant leurs yeux, ils ont cette question effroyable. N'est-il pas le fils du charpentier? C'est exactement la même que celle du jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça a tellement tout cassé. Et bien là, c'est exactement la même chose. ces gens qui ont pu voir des choses spirituelles, qui ont pu voir le royaume des cieux, le royaume spirituel se manifester, ils ont eu la trouille. Ils ont eu la trouille d'être touchés. Ils se disent, non, moi je reste avec ma tête. C'est le fils du charpentier. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Pas lui. Il n'est pas assez bien. Il n'est pas assez ci. Il n'est pas assez ça. En plus de ça, il n'a même pas un visage qui frappe les regards. Non, c'est pas possible. Et tout est cassé. Et je crois que ce passage-là, il est là pour nous mettre en garde. Il ne faut pas réfléchir avec notre tête. Notre tête, elle doit être à notre service. C'est notre esclave. Mais c'est notre esprit qui doit vivre les choses de la foi, les choses du royaume des cieux. Il faut tirer de son trésor un trésor. Le royaume des cieux fonctionne sur le principe de la semence, qui aboutit à la croissance, à la multiplication. Et Jésus l'illustre dans ses paraboles qui nous mènent à ce texte-là. En fait, une semence, c'est tellement petit. Et ça veut dire que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Il faut juste commencer. Une prière, un soupir, un temps d'écoute avec le Seigneur. Prendre le temps de se plonger dans la parole, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et de laisser ces choses nouvelles prendre leur place. De s'attendre à ce que notre vie soit transformée. Aspirez au Saint-Esprit, appelez le Saint-Esprit, demandez l'assistance du Saint-Esprit. Et si on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, le demandez. Vous pouvez le demander dans la prière et vous pouvez aller chercher des frères et sœurs pour le recevoir. Et vous pouvez aller voir votre pasteur pour le recevoir. Il y a plusieurs façons de faire. Et à un moment donné, ça se passe. Regardez ce matin, il y a eu tout à coup un moment où on a chanté en langue. Mais il y a des gens dans l'église qui n'ont pas encore reçu le don de parler en langue. Ben justement, si quelqu'un aimerait, il faut le désirer devant le Seigneur, il faut le demander. Et quand il y a des moments comme ça, mais profitez, Seigneur, moi j'aimerais. Et ça peut arriver spontanément comme ça. Ça peut. En fait, le Seigneur, il dit pas de toute façon, il faut que quelqu'un t'impose les mains, ou il faut que ça se passe comme ça, ou il faut. Non, le Seigneur, c'est comme le royaume de Dieu, ça peut se passer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais encore comme ça. Donc soyez ouverts. Soyez ouverts, mais désirez-le, demandez-le. Et tout à coup, le Seigneur dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Mais toi, fais ta part, ouvre ta bouche, dis des mots, et puis je remplirai ta bouche. À un moment donné, c'est là. Saisissez les occasions, mais mettez-vous en route. Et il y en a d'autres qui ont peut-être juste besoin d'un rafraîchissement du Saint-Esprit. Ils savent très bien qu'ils l'ont, mais ils aimeraient un truc de plus. Ben, mettez-vous en route. Demandez-le déjà au Seigneur, dites-le, informez-le. Informez-le, Seigneur, j'aimerais tellement. Et parlez-en autour de vous. Et ces choses-là vont commencer à exister. Et ça va venir et ça va se réaliser. Ces choses nouvelles, sans la puissance du Saint-Esprit, elles n'existent pas. Il faut que je m'arrête. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce verset. On a reçu une parole pour l'Église. On a un trésor. Mais il faut creuser. La parole nous disait, il faut creuser, il faut briser la roche pour pouvoir l'atteindre. Il faut prendre des pioches. Alors ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on ne peut pas saisir une pioche à plusieurs. Parce que ça va être vraiment compliqué. Par contre, on a tous une pioche. On a tous un travail individuel à faire pour creuser la roche et saisir ces choses. Mais plus on est à piocher ensemble, plus on sera efficace. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la puissance de ta parole. Seigneur, c'est tellement riche ce que tu nous as donné que avec notre entendement humain, c'est pas toujours facile de saisir, même si on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de choses, des fois on sait même pas par où commencer. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un énorme trésor ouvert devant nous, il est rempli de diamants, de pierres précieuses et il faut qu'on découvre ce que c'est, il faut qu'on s'en saisisse. Il faut que ça influence notre vie à l'intérieur et à l'extérieur. Jésus, merci d'avoir délivré ta parole et je te demande que ça se concrétise dans la vie de chacun d'entre nous. Merci de nous faire entrer dans tes enseignements et dans la mise en pratique. Et merci, Saint-Esprit, de nous aider à comprendre ces choses-là. Merci de venir aussi rejoindre les personnes qui ont besoin d'être baptisées de toi, qui ont besoin d'être revêtues de toi, qui ont besoin que leur coupe déborde, qui ont besoin que ce soit des nouvelles langues qui sortent de leur bouche. Je te demande de l'accorder à mes frères et sœurs qui ont envie de le vivre. Je te demande de favoriser les circonstances pour que ça vienne. Et je te demande de nous aider chacun à saisir une pioche et de nous encourager ensemble à piocher ensemble. Merci Seigneur, je bénis ta parole, je bénis pour ta richesse, ton intelligence, ta grandeur, ta fidélité envers les enfants que tu aimes. Merci Père, merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Amen.